pas mourir d'inanition, d'inanition. Mais je veux chiller, chiller avec mes hey. J'aime pas trop les hipsters. Je préfère ceux qui me disent oh mon hey, t'es le sang, t'es le sang. Ça, c'est peut-être pas du freestyle, mais je crois que ça fera le job, job, job.
Non content de faire du rap, Alain Rey fait aussi le boss chez Robert et publie une nouvelle édition format poche, enfin très grosse poche, de son dictionnaire historique de la langue française. 60 000 mots passés au carbone 14 pour retrouver l'étymologie et l'évolution des idiomes depuis 10 siècles. Bonjour Alain Rey.
Bonjour.
Boulot colossal et ce n'est pas du freestyle.
Non, c'est pas du freestyle. Le boulot, je peux même pas l'évaluer parce qu'en réalité, il y a plus de 15 ans de travail sur le texte, ce texte-là, avec d'excellents collaborateurs, on fait pas ça tout seul, mais ça suppose quand même avant une expérience de toute ma vie sur le grand Robert de la langue française, le petit Robert, etc., etc. Et puis pas mal de bouquins sur des domaines spéciaux. J'ai même fait un livre sur un mot, un seul mot, c'est Révolution, histoire d'un mot, chez Gallimard. Et ce genre de choses permet d'approfondir un petit peu ce qu'il y a derrière les mots. Parce que nous les employons naïvement, spontanément, mais en fait, ils nous apportent quelque chose d'autre qui est un passé commun, un partage avec des quantités de communautés, parce que tout de suite, je tiens à dire, et ce dictionnaire essaie de le montrer, que le français n'est pas l'apanage de la France du tout, que c'est une langue internationale, que c'est une langue qui est partagée avec des formes différentes, des mots différents, des façons de parler différentes, mais qu'on ne parle pas de la même façon à Dakar et à Montréal, à Pointe-à-Pitre et à Papeete, etc. Donc j'essaye de représenter tout ça dans ce livre.
La première édition de ce dictionnaire historique de la langue française, c'est en 93. Rien n'avait jamais vraiment été imaginé auparavant pour comprendre mot par mot l'histoire de la langue et donc d'une certaine façon l'histoire.
Pas systématiquement. Il y avait eu évidemment des monographies. Il y a une magnifique histoire de la langue française par Ferdinand Bruno en des tas de volumes, mais qui est pas à la portée de tout le monde, d'abord pour le prix, la taille, l'importance, le poids, et qui est fait pour des spécialistes. Il n'y avait pas de synthèse qui soit à la portée de tout le monde, et que je n'ai pu faire que parce qu'il y avait eu avant des quantités de générations de chercheurs. Ça commence au XVIe siècle avec Pasquier, les recherches de la France. Ça continue au XVIIe siècle avec Ménage, qui a trouvé que le français venait du latin, mais que c'était pas du latin de Cicéron, c'était du latin oral, parlé, en Gaule, et qui est différent de celui qui est parlé en hispanique, qui a donné l'espagnol, en Italie, qui a donné tous les dialectes italiens et l'italien central. Et voilà, ça replace un petit peu le français dans son ensemble, parce que on remonte dans le passé bien au-delà du mot d'où vient le français, c'est-à-dire le mot latin, le mot grec, d'accord, mais on essaye de voir quelle est l'étymologie du latin et du grec pour remonter, si c'est possible, jusqu'à l'indo-européen, quoi.
Alors, vous remontez dans le passé, mais c'est un dictionnaire du présent aussi, parce que c'est la 8e édition et vous ne cessez de l'enrichir, ce dictionnaire.
Absolument, parce que ça, nous, on essaye de, vous savez, l'histoire, c'est aussi aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que faut bien comprendre le mot histoire, c'est le passé le plus lointain, mais c'est le présent le plus actuel, et tout ça forme un ensemble. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'avec toutes les variétés du français, parce que ce livre est bien plus ouvert que ne l'étaient les dictionnaires au XIXe siècle, qui est quand même très parisien, très Île-de-France par rapport au reste des usages du français. Là, on essaye, dans la mesure du possible, c'est très difficile, ça dépend de l'information qu'on a, mais pour vous donner un seul exemple, j'ai trouvé un très beau lexique ou même dictionnaire du français de Nouvelle-Calédonie, qui est fait par une dame à Nouméa, et qui n'a même pas été publié en livre, qui est publié renéotypé comme ça, Et j'ai trouvé que c'était épatant. Les éditeurs sont un peu réticents, donc j'ai fait passer un certain nombre d'informations, parce que il y a évidemment en français de Nouvelle-Calédonie l'influence des langues kanak, le fait qu'il y a des plantes, des animaux qui sont différents des nôtres, et ça aboutit à cette chose très fondamentale qui est que la langue française est extrêmement variée et qu'elle est capable de traduire des cultures très différentes.
Si elle n'évolue pas, cette langue française, elle meurt d'inanition, comme vous le disiez dans le petit morceau de rap qu'on a entendu.
Un peu, parce que si vous voulez, prenons l'exemple d'une langue qui a beaucoup de mal à évoluer, c'est le latin. Bon, le latin n'est plus parlé spontanément que par quelques prélats, mais il est parlé parfois par des gens qui ne se comprendraient pas sans cela au Vatican, parce qu'ils échangent en latin. Et ils ont été obligés, pour que cet échange soit fructueux, d'inventer des mots latins bidons qui correspondent aux réalités contemporaines. Un avion à réaction, ça se dit pas en latin classique. Donc, il y a des dictionnaires pour ça qui sont très rigolos à voir d'ailleurs. Donc, c'est une langue qui survit, mais qui ne vit pas. C'est pas spontané du tout. Alors que le français, comme toutes les grandes langues sur la planète Terre, quand elles sont pas menacées, ce qui est le cas, par exemple, des langues indiennes d'Amazonie, des langues très nombreuses d'Afrique. Vous savez qu'il y a plus de 1000 langues en Afrique. C'est certain que dans 100 ans, 200 ans, il n'y en aura plus que quelques centaines, parce que on peut pas survivre dans une langue alors que tous les gens parlent d'autres langues autour et qu'il faut une langue de communication commune. Le français joue, parmi quelques langues du monde, ce rôle de langue internationale et de langue vecteur, si vous voulez, pour l'expression du français contemporain, qui est capable de raconter à la fois les contes de Haïti et des Antilles, la mythologie des Peuls d'Afrique, et l'informatique ou le rap.
Alain Rey, d'où vient, on va pas raconter votre vie, mais d'où vient cette passion pour la langue ?
Bah, écoutez, je pense que les enfants ont une passion pour la langue, presque tous. Parce qu'il y a un moment de la vie qui est absolument fondamental pour créer la personnalité et qu'on oublie très vite après, ce qui est bien dommage, et qui est l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire le moment où le cerveau commence à enregistrer des rapports entre des formes prononçables, c'est-à-dire les mots de la langue française en l'occurrence, mais ça pourrait être une autre langue, et puis des objets du monde, ou des sensations, ou des façons de réagir au monde qui est autour de soi. À partir du moment où l'enfant commence à comprendre qu'en prononçant certaines voyelles et certaines consonnes, il va susciter dans la tête des autres la présence d'un objet, ou d'une chose, ou d'une personne, ou d'une abstraction, ça peut être un sentiment, etc. Son enrichissement intérieur est fantastique, et la langue sert à la fois de vecteur pour l'enrichissement personnel et psychologique, et de moyen d'expression et de communication, bien sûr. C'est ce qui est son rôle essentiel.
De l'apprentissage de la langue, du rapport parfois avec la langue et l'expression orale, le théâtre, nous allons voir ailleurs, c'est notre chronique du lundi. Ailleurs, à Rome, où Hélène Sandoval s'emploie à faire découvrir et apprendre le français avec le théâtre. Bonjour Hélène Sandoval.
Bonjour.
Vous avez créé le Théâtre français de Rome, voilà 16 ans, mais ce n'est pas un lieu ou une salle de spectacle à proprement parler, mais c'est plutôt une association de sensibilisation.
Oui, donc nous on a une école de théâtre et une compagnie d'acteurs professionnels qui jouent en français à Rome.
Pour quelles raisons vous avez créé cette troupe et cette structure ?
Eh bien, j'ai commencé ma formation d'actrice. Je l'ai commencé en France et puis quand je suis venue vivre en Italie il y a 25 ans, j'ai fait une autre formation en langue italienne. J'ai joué pendant 10 ans en langue italienne à Rome, en Italie, dans des groupes italiens. Et puis en 2003, j'ai eu envie de jouer en français. J'ai cherché une troupe française à Rome, il n'y en avait pas, et donc je l'ai créée.
Avec l'idée de valoriser cette langue, de la faire entendre, de la faire apprendre.
Oui, il y a une compagnie professionnelle qui donne des spectacles pour tout public. Et puis, la deuxième grosse activité du Théâtre français de Rome, ce sont les cours de théâtre. Et comme on est à Rome, donc avec la plupart du temps des non-francophones, on s'est spécialisé dans l'apprentissage du français à travers le théâtre.
Et ça marche bien ?
Ah oui, ça marche très bien. On a environ 350 élèves chaque semaine, que ce soit à l'École française de Rome, à l'Institut français ou dans les écoles italiennes aussi.
Et ils apprennent le français, ces élèves, avec quels textes, avec quels auteurs ?
Alors, ce sont toujours des auteurs français. Par exemple, pour les écoles, on va aller sur Molière, Marie Bourreau, ou alors aussi sur des auteurs plus contemporains. Quand on a des niveaux lycée, par exemple, on va leur proposer Éric Emmanuel Schmitt, on va leur proposer Rib, on va leur proposer Roger Lacan. Enfin, on va piocher dans la littérature actuelle.
Et vous sentez un goût, un désir pour à la fois cette langue et ce théâtre ?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est grâce au jeu qu'on leur propose. On démarre jamais en les faisant parler en français directement. Il faut pas oublier qu'on est avec des non-francophones la plupart du temps. Et la langue leur fait peur. Enfin, un cours de théâtre en français, c'est impressionnant quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors qu'ils étudient le français deux fois par semaine, voire trois grand maximum. Donc on va d'abord les apprivoiser, entre guillemets, avec des jeux de théâtre, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner le texte à apprendre par cœur comme ça, on va les faire travailler en improvisation d'abord et petit à petit amener le texte.
Merci beaucoup Hélène Sandoval et bravo pour tout ce boulot, 350 élèves par semaine, ça fait du monde à l'arrivée. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
Ici les petites Ralph Lauren en Austin longe la Seine. Et nous font des signes. Là, les capuches dandinent en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, ici. Sautes le périph, oh, allez, I shot the sheriff, Bob Marley, ici et là. Ici il gagne, il peut gagner, grimpe un homme sup. Là l'escalator est en panne, on tourne dans la zup. Fantin la tour et de gars, allez va au musée. La tour, y a deux gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là, tu sautes le périph.
Ici et là sur RFI, extrait du nouvel album d'Alain Souchon, Am 50s. Et comme je suis avec le lexicographe et linguiste Alain Rey, auteur du Dictionnaire historique de la langue française, je me suis plongé dans cet ouvrage à la lettre I pour chercher l'origine de l'adverbe ici. Et je m'aperçois qu'Alain Souchon parle comme en 1050, car ce mot est attesté dès le 11e siècle, avec un sens qui a assez peu évolué. Ce qui est assez rare quand même, parce que les mots évoluent beaucoup, non ?
Oui, mais il s'agit d'une... une catégorie de mots qui évolue beaucoup moins que les autres et qui est complètement fondamentale, c'est ce qu'on appelle les déictiques, qui désignent quelque chose qui est tout à fait relatif à la personne qui parle. Si je dis ici, pour moi maintenant, c'est un studio de RFI. Dans une heure, ça sera autre chose. Il y a deux heures, c'était chez moi, du côté de Pigalle. Et ça aurait pu être à Dakar, en Chine, où vous voulez. Donc, ce sont des mots qui viennent du latin directement et qui sont un peu figés. Ils ont évolué par la forme, mais ils évoluent pas par le sens, parce qu'on a vraiment besoin de caractériser l'endroit où on est au moment où on est.
En revanche, si cette émission avait existé en 1050, elle se serait appelée Par vive voix et non pas De vive voix.
Oui,
vous voyez comme je deviens savant en vous lisant.
Certainement. Et même, je suis pas sûr que vif était employé dans ce sens-là, parce que vif, c'était vraiment vivant.
Mais nous sommes vivants tous les deux, quand même.
Au XIe siècle, bien sûr.
À quel rythme évolue la langue à l'arrêt? Est-ce qu'il y a un effet d'accélération sur les 30-40 dernières années?
Il n'y a pas d'effet d'accélération fondamental, à mon avis, mais il y a un effet apparent d'accélération qui est dû à l'accélération de ce qui transmet la langue, c'est-à-dire les médias, c'est-à-dire même l'école qui bouge plus vite qu'avant, pas toujours très bien, mais parce que les difficultés sont tellement immenses. C'est un peu fonction de la façon dont on se sert du langage en politique, en publicité, pour influencer, pour tromper souvent, parce qu'il faut pas oublier que ce qui a été dit dans l'Antiquité une bonne fois pour toutes, c'est la meilleure et la pire des choses, le langage. C'est-à-dire qu'on peut, avec lui, on peut faire plaisir et faire du mal, on peut insulter et on peut aimer, on peut faire tous les effets possibles, on peut dire la vérité et on peut mentir comme un arracheur de dents, comme on disait autrefois. Donc, si vous voulez, je pense que le rapport au langage, il a intérêt à être creusé par les gens qui s'en servent, et ça, on essaye d'aider les gens en leur disant, voilà ce qu'il y a dans les mots que vous employez. Vous parliez de ici, ça c'est un mot extrêmement simple parce qu'il a peu évolué, mais si on prend dans de vive voix, le mot vif, adjectif vive, et le mot voix, avec toutes les métaphores, les figurés que ça a entraîné au cours des âges, on est devant un univers d'expression qui est tout à fait considérable.
Et qui est presque vertigineux d'ailleurs.
Et qui est assez vertigineux.
Chaque article de votre dictionnaire est assez vertigineux.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, et je l'avais éprouvé quand je faisais des chroniques de radio régulières sur les mots de l'actualité, c'est que aucun mot n'est décevant. Dès qu'on prend un mot, qu'on l'ouvre, qu'on regarde ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit qu'il y a toute une histoire qui raconte quelque chose, que cette chose est en rapport avec l'histoire tout court, et qu'elle représente par exemple la manière de penser de quelqu'un sous Louis XIV. Quand on me dit je fais de l'histoire et je m'occupe du XVIIe siècle, je dis le premier bouquin qu'il faut lire, c'est le dictionnaire d'Antoine Furetière, publié en 1690, dans lequel on voit ce qu'il y avait dans la tête d'un Français cultivé, parisien, bourgeois, à la fin du XVIIe siècle.
Donc dans deux siècles, quand on lira votre dictionnaire historique de la langue française, on saura ce que un Français ou un francophone pense et parle en 2019. Et on voit l'évolution d'ailleurs, entre 1993, donc la première édition de votre dictionnaire historique, et aujourd'hui, le mot rap, j'en reviens à ça, puisque vous êtes une star du rap, le mot rap n'existait pas en 93, entre Raout et Rapace, il n'y avait rien.
Ah non, bien sûr, non. Mais non seulement le mot rap, mais pas le hip-hop, pas des quantités de choses qui intéressent fort les jeunes et qui, malheureusement, de mon point de vue, viennent toutes du même endroit, la Californie. Je trouve ça un petit peu gênant parce que c'est très bien d'avoir des empreintes un peu partout. Pourquoi pas la Californie plutôt qu'autre chose, puisqu'ils sont très créatifs et que notamment dans la Silicon Valley, on a des gens qui ont créé les outils qui fascinent tellement tout le monde aujourd'hui et qui sont les téléphones portables. Entre parenthèses, voilà un mot téléphone qui a été inventé en français, complètement oublié, réinventé en allemand, complètement oublié, réinventé en anglais, et là ça a marché, et c'était uniquement un appareil pour parler de loin, c'est ce que dit téléphone. Et maintenant, c'est plus du tout ça, c'est un ordinateur de poste, et on continue à l'appeler téléphone, alors que très souvent, on ne téléphone pas, mais qu'on pianote dessus pour aller sur Internet, voir n'importe quoi et n'importe où.
Dans cette huitième édition du dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey, mais je prépare le terrain pour la neuvième, il n'y a pas le mot infox. Mais il n'y a pas le mot fake news. Lequel vous allez choisir?
Ils sont prêts.
Alors, lequel vous allez choisir? Infox ou fake news? Est-ce qu'il faut avoir peur des anglicismes?
Il faut pas avoir peur des anglicismes, mais on peut les critiquer. Par exemple, dans l'édition actuelle, pour parler de ce qu'on peut lire aujourd'hui, Il y a tout un passage sur le burn-out où je montre que la notion a été inventée par des psychiatres français, qu'elle a été exportée aux États-Unis et qu'aux États-Unis, c'est devenu une sorte de d'outil pour gagner de l'argent avec des systèmes de comment d'aide aux gens en difficulté, etc., au travail, et que à partir du moment où c'est devenu un objet économique, à ce moment-là, c'est la langue anglaise qui l'a emporté sur le français, comme par hasard. Et personne n'est conscient de ça. Alors, j'en profite pour dire, on n'est pas contre l'anglicisme en lui-même, mais vraiment, le harcèlement au travail, ça paraissait vraiment aussi bien que burn-out, qui ne veut rien dire du tout, sinon qu'une chandelle qui s'éteint. Donc, c'est pas du tout ça. Parce que souvent, on prend à l'anglais des choses dont le sens est vague, incertain, et pas du tout intéressant sur le plan du contenu. Quand il y a un contenu nouveau que transmet la langue anglaise, et puis en plus, la langue anglaise, elle est à 50% française. Hein,
oui, il faut le rappeler toujours.
Le vocabulaire, pas la syntaxe. Mais le vocabulaire est quand même à 50% français, ce qui lui donne une force de pénétration extraordinaire, parce qu'elle est à la fois langue germanique, mais c'est la plus romane des langues germaniques. De même que le français est une langue romane, donc venant du latin, mais avec une influence germanique beaucoup plus forte qu'en italien ou en espagnol, à cause des francs, puisque le mot français lui-même est un mot germanique et pas du tout un mot latin.
Alain Rey, à ce fauteuil, jeudi prochain, prendra place la philosophe Barbara Cassa, nouvelle académicienne, qui a tenu la semaine dernière son discours de réception sous la coupole, donc dans un autre fauteuil autrement plus prestigieux, avec un credo, une formule empruntée à Jacques Derrida, plus d'une langue.
Plus d'une langue, c'est signifier aussi, depuis le dehors, que le français est une langue, entre autres, parmi d'autres. Pour parler une langue, et pour savoir que c'est une langue que l'on parle, il faut en parler ou en flairer plus d'une langue en Europe, et plus d'une langue dans nos classes. C'est là que la traduction, savoir-faire avec les différences, travail entre les cultures, arrêt entre, est une pratique qui s'impose, avec hospitalité et patience.
Alain Rey, que pensez-vous de cette approche de la langue faite par Barbara Cassin? J'organise un rapide dialogue à distance.
C'est tellement la mienne que lorsqu'elle a conçu son dictionnaire qui devait s'appeler dictionnaire des intraduisibles, mais l'éditeur a trouvé que c'était un peu agressif, donc il a préféré l'appeler dictionnaire de philosophie, la philosophie européenne, dans lequel il y a des mots non français qui sont expliqués, parce que c'est pas tout à fait la même chose de dire psyché en grec, de dire animus et anima, où il y a deux mots d'ailleurs en latin, et de dire âme en français. À chaque fois, il y a des différences conceptuelles considérables. Et j'ai été tellement favorable à ce dictionnaire qu'il a été coédité, notamment par les éditions du Robert, dont je m'occupais au point de vue intellectuel à ce moment-là. Et je continue d'ailleurs. Et je trouve que Barbara Cassin illustre très bien cette tendance qu'on trouve dans la phrase de Derrida à plus d'une langue, et dans celle qui est souvent citée, mais à juste raison, de mon ami regretté Umberto Eco, qui disait « la langue de l'Europe, c'est la traduction ». Bon, ce qui à la fois est un peu dérisoire, parce que la traduction n'est pas une langue, bien entendu, c'est un passage d'une langue à l'autre, mais ce qui est très profond, parce que ça veut dire qu'on ne maîtrise bien le contenu d'une langue dans son intégralité que si on est capable de la comparer aux langues voisines et aux langues qui l'ont influencée. Et mon dictionnaire historique est entièrement fait pour ça. C'est-à-dire que quand on peut remonter l'origine d'un mot jusqu'à l'indo-européen, on a des rapports tout à fait inattendus entre le français non seulement et les autres langues romanes, l'italien, l'espagnol, mais aussi avec le russe, mais aussi avec toutes ces langues qui ont envahi une grande partie du monde à cause de la colonisation à partir du XVIe siècle.
Mais c'est vrai que la langue est un espace, en fait, je ne sais pas si c'est le mot de métissage qui convient, mais en tout cas d'absorption du dehors.
Absolument, c'est-à-dire qu'une langue, si elle n'est pas capable d'absorber le dehors, comme vous dites, et d'exprimer ce qu'elle n'exprimait pas auparavant, grâce à l'aide de ceux qui l'ont exprimé avant elle, parce que les civilisations se développent, c'est que, bon, là, pour prendre un exemple tout à fait banal, la fourchette, ça n'est pas un dérivé de la fourche, Les paysans n'avaient aucune idée que c'était une petite fourche. C'est en italien que ça se passe. Ça devient forchetta. Et c'est la forchetta qui devient fourchette quand elle passe en France au XVIe siècle. Bon, des choses comme ça, il y en a constamment. Il y en a des dizaines de milliers qui représentent justement ce rapport. Nous disons un palace, c'est un mot anglais. Mais c'est un mot anglais qui est emprunté au latin. Et c'est le palazzo italien, et c'est le palais français, et c'est le palace anglais qui est devenu un hôtel de luxe à cause des Anglais habitant la Côte d'Azur à la fin du 19e siècle. Tout ça est très précis.
Là. Alors c'est vrai, c'est très précis, très méticuleux, et c'est vrai Alain Rey que votre dictionnaire historique prend à bras-le-corps l'ensemble des Français parlés de par le monde. Il y a une espèce de traçabilité d'ailleurs. Vous parlez du français d'Afrique, du français du Québec, du français du monde arabe, etc., etc. Avec des surprises, j'ai regardé le verbe cadoter que j'aime beaucoup. Oui. Il y figure comme étant un dérivé d'usage assez courant en Afrique, mais vous nous rappelez que c'est Flaubert qui l'a utilisé le premier.
Oui, c'est-à-dire que c'est un mot qui était dans la langue virtuellement, donc familier, pas accepté par les dictionnaires anciens au 19e siècle. Flaubert, pourquoi est-ce que Flaubert est souvent un témoin de l'évolution du français ? C'est à cause de son journal, qui est un journal qui est écrit de manière totalement spontanée. C'est pas du tout dans ses romans, c'est pas dans Madame Bovary qu'on va trouver ça. Et il emploie ce que probablement on devait employer en Normandie à son époque, spontanément. Par exemple, je me suis aperçu que nombre de mots qui sont employés couramment au Québec et plus jamais en France étaient des mots français, mais des mots français régionaux, de Vendée, du Poitou, de Normandie, qui avaient passé l'Atlantique à la fin du XVIIe siècle en général, ou au début du XVIIIe, et qui sont devenus très très familiers aux Français d'Amérique du Nord, pas seulement Québec, mais Nouveau-Brunswick, les Acadiens, les Louisianais qui parlent encore français, et ils ont des sociétés qui stimulent la langue française. J'étais très touché tout à l'heure par le passage de cette dame qui fait du théâtre en français en Italie, parce que je pense que ce sont des vecteurs très importants pour l'apprentissage des langues, que les choses qui sont un peu ludiques. Donc, les dialogues de films, les chansons. La chanson, c'est très très important pour conserver des langues minoritaires, par exemple, ou pour faire comprendre une langue à l'étranger. J'ai rencontré au Canada anglophone une petite ville où les noms étaient français, ils étaient passés à l'anglais. Mais dans les bistrots, quand ils se mettent à chanter, c'est en français. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de rapport avec la musique, avec aussi tous les arts, et bien sûr la littérature, qui fait que la langue vaut ce que valent la façon dont on s'en sert.
Mais ça se lit dans votre dictionnaire, parce que si vous citez Flaubert, le grec, le latin, et c'est un ouvrage très savant encore, il faut le dire, vous n'hésitez pas à faire référence à l'argot, aucun terme ne vous fait peur,
bien
ou
sûr.
Au pied-nickelé.
Le texte des pied-nickelé est magnifique, c'est un très beau témoin de la langue populaire autour de 1900, parce que Fortin c'est pas un très grand dessinateur, mais justement c'est un type qui observait la langue. Et les gens qui observent la langue, moi je les piège, parce que c'est ça qui est intéressant pour moi. Alors pour ce qui est de représenter le français dans le monde, il y a encore du progrès à faire, vous savez, parce qu'on n'a jamais assez d'informations, que les choses bougent très vite, et que je rêve d'un dictionnaire qui n'existe pas, et qui serait lisible par tous les francophones du monde entier. C'est-à-dire que quelqu'un de Nouvelle-Calédonie pourrait voir quels sont les rapports entre son français à lui et le québécois, le français d'Afrique, c'est infini.
Hein, mais... Eh bien, au boulot, Alain Rey. Merci beaucoup, ce dictionnaire historique de la langue française est donc édité chez Robert, en 3 volumes, pour la version poche qui doit faire quand même 3-4 kilos, hein, à peu près.
C'est, ah bah oui, parce c'est que c'est le texte absolument intégral du grand dictionnaire, mais ça coûte 2 fois moins cher.
Et c'est le grand dictionnaire, lui, en 2 grands volumes qu'on ne peut pas ranger dans les bibliothèques, donc on est obligé de le laisser sur le bureau, ce qui est assez malin. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, Véronique Durand, Guillaume Ploquin, et on se retrouve demain.